Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Bienvenue à cette deuxième heure. Un petit mot pour remercier Jonathan Trudeau d'avoir pris la relève alors que je combattais le coronavirus à la maison, tranquille, avec un sirop puis du Vic Vaporub, Alexandre Dubé.
Salut,
avec nous, il y a aussi Mario Dumont qui est pas loin. Mario, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Il y a plein d'affaires dans l'actualité à surveiller. Vraiment. Alexandre, je t'en prie.
Ouais, entre autres, ce blocus autochtone, et on surveille ce qui se passe du côté de Belleville aux dernières nouvelles. Donc, les manifestants Mohawks sont toujours en place malgré cet ultimatum du CN et de la police provinciale de l'Ontario qui leur donnait jusqu'à 23h59 la nuit dernière pour quitter. Au cours de la nuit, des Mohawks qui ont émis un communiqué dans lequel ils se disent en faveur d'une résolution pacifique de la situation. Mais oui. Ils sont encore là ce matin. Reste à voir qu'est-ce que les autorités vont faire. On a vu un peu comment ça s'est produit du côté de Saint-Lambert, où les autorités, finalement, ont mis fin à ce blocus-là de façon pacifique. Aucune arrestation, aucune interpellation. Et là, messieurs, avec votre sagesse, votre connaissance, éclairez-moi là-dessus.
Il y a pas d'éclairage à faire. Moi, ouais. C'est les Antifa, moi. J'aurais aimé ça que des vrais fascistes débarquent pour leur montrer c'est quoi des vrais fascistes. Leur barricade aurait duré comme 45 secondes avec une claque sa gueule parce que des Antifa qui combattent des fascistes qui n'existent pas au Québec. J'ai un peu mon voyage. Là, t'as le CN puis t'as la police provinciale, Mario, qui disent aux Mohawks de dégager. C'était censé s'appliquer cette nuit à minuit. Puis il n'y a rien qui se passe.
Oui, c'est... mais là, faisons attention à deux choses. D'abord, il fallait qu'il se passe quelque chose parce que Justin Trudeau a parlé vendredi après-midi. Mais si le premier ministre... la seule barricade qui a été démantelée à Saint-Lambert, elle n'a aucun rapport avec Justin Trudeau. Là. C'était tout décidé à Québec. Donc, la barricade en Ontario, c'est celle qui bloque le transport ferroviaire au Canada. C'est celle dont M. Trudeau avait principalement parlé. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Par contre, interprétons pas que... parce qu'ils se sont pas retirés cette nuit, qu'il se passera rien, là. On l'a vu à Saint-Lambert.
Mario, là. À Saint-Lambert,
Mon point, Benoît, c'est que c'est pas parce que la police, quand il y a un ultimatum, pas parce que la police intervient pas à la minute près qu'elle interviendra jamais non plus, là.
Mais, excuse-moi, mais Trudeau...
Les policiers se donnent un plan d'intervention, ça pourrait être plus tard, ça pourrait être en avant-midi, ça.
Mais la phrase de Justin Trudeau, là, je pense que c'était vendredi, levée immédiate des barricades, immédiate est un mot de toute évidence que les Mohawks ne comprennent pas. Parce qu'immédiate, ouais, c'est comme là, drette là, tout de suite, right fucking now.
Non, mais là, en fin de semaine, on s'en va en direction inverse, là. Les chefs héréditaires Wet'suwet'en qui rencontrent les Mohawks, puis là, qui disent, ben là, c'est plus le pipeline, l'histoire. C'est devenu beaucoup plus large que ça. Ils disent qu'ils ont fait une espèce de pacte, là, qu'ils vont solidariser les uns les autres pour qu'on règle enfin toutes les questions territoriales, puis là, on n'est même plus dans la même affaire, là.
Non, puis on revient là-dessus, je pense qu'on est obligé de le dire, les conseils de bande en Colombie-Britannique avaient signé, il y a trois chefs héréditaires qui avaient signé l'entente avec le Coastal GasLink, et là, tout à coup, les chefs héréditaires ont pas eu leur pizzo, c'est ça, fait qu'ils sont allés déambuler dans la grande démocratie qui est Kanawake pour exiger leur pourcentage du deal.
Mais Benoît, on sait même pas, il y a des chefs héréditaires, ceux qui contestent, là. Il y en a qui sont devenus des chefs héréditaires récemment. Parce qu'ils ont remplacé, ils ont tassé...
Par nomination.
Des chefs héréditaires favorables au projet. Mais Benoît, moi, là, j'essaie de le savoir. Je suis toujours pas capable de savoir... S'il n'y a pas d'élection, là, comment ils les ont tassés? Parce qu'à un moment donné, dans un des articles, je sais plus quand, là, ça parlait d'intimidation, là, des gens qui avaient peur de donner leur vrai point de vue.
Je peux pas croire ça, que les Mohawks fonctionnent de même.
Non, mais comment les chefs héréditaires Wet'suwet'en contre le projet ont tassé des gens qui étaient pour l'année passée, là? Qu'est-ce qui s'est produit? Je veux dire, tu tasses quelqu'un comment quand il n'y a pas d'élection?
Héréditaire de qui, là? C'est comme les cousins de la reine Élisabeth. C'est qui, ce monde-là?
C'est vraiment pas clair. Non, c'est héréditaire, mais c'est un mot, là. C'est pas héréditaire. La preuve, c'est qu'ils ont tassé du monde l'année passée, là.
OK, c'est pas parce que ta mère. C'est moi. Ta mère était chef, donc tu deviens chef quand ta mère prend sa retraite.
Ça n'a pas l'air de ça.
C'est pas ça. D'autres nouvelles?
C'est qu'à un moment donné, tu décides, je suis chef, puis c'est plus l'autre. C'est moi.
OK. Et là, c'est celui qui gagne parce que c'est celui qui a des amis avec les plus gros bras.
On ne sait pas.
Ah.
Mais si c'est ça, tu comprends que la situation est encore plus grave, là. Puis le ridicule des gens qui mais mettons les gens qui manifestaient à Saint-Lambert, soi-disant en appui, là.
Hey.
Est-ce qu'ils avaient la réponse à ça, eux? Est-ce qu'ils appuyaient des gens qui, sont peut-être là par,
Mario, ils leur ont même pas fait ramasser leur vidange, sti. Ils ont même pas ramassé leur vidange à ces baveux-là. Qui ont bloqué la voie 48 heures, Alexandre. Mm-hmm.
Ouais, c'est des verres, ça fait pas de vidange, ça, Benoît.
Ah, excuse-moi. Puis moi, j'ai un policier militaire sur Twitter qui m'a écrit, puis il dit, hey, dès qu'ils sortent, là, pour aller faire un petit caca, ou aller chercher un verre de lait ou une boisson énergétique, là, t'es pogne, t'es arrête. Fait que comment ça fait qu'ils ont pu circuler, ces gens-là, sans être, puis partir chez eux, sans même comprendre leur identité? C'est quand même extraordinaire.
Ça aurait été le minimum. J'avoue, là, mettons que tu décides que tu fais un deal. Ce qu'ils ont probablement fait, tu sais. Le gouvernement voulait pas d'affrontement. La police voulait pas d'affrontement. Fait que tu leur dis, garde, là, on vous arrête pas. Là. Si vous en allez là, puis vous ramassez vos affaires, là, allez-vous-en chez vous, puis on fera rien. Il me semble, le minimum, Benoît, c'est arrêter de prendre les identités, puis de dire, regardez bien, là, si on vous revoit dans une manifestation, pour qu'on vous revoie, vous êtes fiché dorénavant. Vous êtes pas arrêté. Mais vous êtes fiché, là.
Pire que ça, Mario. Si t'es pas Mohawk, on t'accuse d'appropriation culturelle. T'as pas d'affaire là. OK, c'est correct. Y a d'autres nouvelles, Alexandre?
Ouais, deux choses sur la scène judiciaire, entre autres. De un, les jurés au procès d'Harvey Weinstein qui vont reprendre leur délibération ce matin à New York. On sait qu'avant la pause de la fin de semaine, le jury avait laissé entendre qu'il s'était accordé sur 3 des 5 chefs d'accusation. Alors, on verra bien. Et à Londres, la justice britannique se penche aujourd'hui sur la demande d'extradition qui avait été formulée par les États-Unis dans le dossier du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. On sait qu'aux États-Unis, il est poursuivi pour espionnage. Si jamais il retourne là-bas, il s'expose quand même à une peine maximale de 175 ans de prison. Je vous donne en mille qu'il ne la terminera pas.
Probablement pas. très lucide. Et aussi, aujourd'hui, là, on peut pas parler aux gars de sport parce qu'ils sont tous en train d'éplucher les statistiques pour savoir ce que va faire Marc Bergevin.
Ben, je vais t'en parler, moi, parce que tu sais que moi, je suis un ancien gars de sport.
Mario aussi aime ça.
Oh, oui, moi, j'adore ça. Moi, tu sais que la journée des transactions dans la Ligue nationale, moi, je fais partie de ceux qui suivent ça quand même beaucoup.
Ça me fait peur.
Alors, hier, mon cœur s'est arrêté quand Ilya Kovalchuk a été échangé aux Caps de Washington. On s'attendait peut-être un retour d'un choix de deuxième ronde. Finalement, Bergevin a eu un choix de troisième ronde en 2020. Canadien qui conserve aussi 50% de son salaire, de son 700 000. Et là, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines heures?
Attends une seconde. Mario, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Kovalchuk, qui s'en va?
Ben, je pense qu'il aurait dû l'échanger 10 jours avant. C'est un type qui était excité en arrivant à Montréal, mais c'est un gars de léthargie, là, toute sa vie. Puis là, ils l'ont laissé retomber en léthargie. Puis, je pense, c'est con à dire, mais les 5-6 derniers matchs, il avait rien fait, là. Fait que sa valeur, vous savez, pour n'importe qui regarde ça, il dit, bon, ben, on est revenu où on était.
Ben, d'accord. C'est vrai.
C'est
mais tu sais, moi, je suis quand même rassuré de voir que là, les petits soubresauts du Canadien, tu sais, dans les derniers matchs, whoop, là, on est à 6 points d'une place en série. Ça n'a pas nécessairement fait changer le plan. Qu'est-ce qui va se passer avec Tatar, Petrie, Thompson? Oui, ben on va le savoir d'ici la fin de la journée.
Ça sent le brûler, hein? Comme genre la vente de feu.
Oui.
Quelque chose comme ça.
C'est un reset.
C'est un reset. Merci, Alexandre.
Va-t'en
pas. Il y a aussi cette histoire, j'en ai parlé avec Félix Séguin tantôt, ce coup extraordinaire du bureau d'enquête à propos d'Hydro-Québec qui a passé entre les mailles de la commission Charbonneau-Hydro-Québec.
À moitié, oui, effectivement. On a l'impression que, mettons, Hydro-Québec a été moins scruté par la commission Charbonneau que le monde municipal ou que certains, que le ministère des Transports, par exemple. Ceci dit, est-ce qu'il y avait eu des vérifications, des questionnements? Il a été question, à certains moments, il a été question d'Hydro-Québec. Mais ce cas-là, il est, notre bureau d'enquête, il est gros, intéressant en même temps, en ce sens que, tu sais, je veux dire, ça peut pas être plus clair, là. Tu sais, c'est photographié en train de recevoir une enveloppe d'argent. Puis le cas c'est un cas typique, là. Tu as un fonctionnaire qui a un pouvoir d'aller jouer dans des appels d'offres, donc peut arranger un appel d'offres. Un des exemples qu'on donne, c'est que tu avais une sorte de peinture à plancher qui était pas homologuée ou qui était pas approuvée pour les planchers d'Hydro-Québec, mais en échange d'une enveloppe d'argent, jadis, il y a quelques années, ben whoop, tout à coup, la peinture, c'est devenu celle-là qui était demandée dans l'appel d'offres. Fait que la compagnie qui avait payé, eux autres, c'était leur peinture. Fait que comme c'était leur peinture qui était demandée, ben
là,
ils ont eu le contrat.
Ben, oui.
Ceci dit, il faut comprendre, Benoît, que c'est ce que j'appellerais, c'est la petite corruption, dans le sens que tu vas pas essayer d'acheter les plus hauts dirigeants d'une société d'État avec des fortunes. C'est-à-dire, tu payes 500$ le fonctionnaire pour mettre un mot ou enlever un mot ou truquer un appel d'offres.
Mais ce qui est inquiétant là-dedans, Mario, Félix,
il y en a peut-être d'autres.
Là. C'est M. Dansereau, là, l'entrepreneur, disait, c'est comme ça que ça marche à Hydro-Québec. Fait que si on multiplie les contrats par c'est corruption, moi. Là, ça devient un véritable problème.
Ça devient un véritable problème. Et c'est drôle, le fait qu'il y en a un qui sort comme ça, d'après moi, ça va obliger Hydro à certains procédés d'enquête. Ça risque d'aider à procéder à un ménage. J'allais dire, c'est de la petite corruption dans le sens que, tu sais, si on fie aux chiffres du journal, là, ils disent qu'ils ont donné à peu près 30 000 sur 17 ans.
Ben
bon.
Ouais.
Ça fait quoi? Ça fait 1500 à 2000 piastres par année, mettons, en moyenne. Mettons que, peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui le payaient. Faisons un gros chiffre. Mettons qu'il y a 5 entreprises qui donnent ça. Mettons, le type ajoutait 10 000 piastres à son salaire par année. Tu comprends? Il n'y a pas un compte en Suisse, puis le gars va disparaître, là, tu comprends, avec de l'argent dans les paradis fiscaux, il va aller s'acheter une villa dans une île déserte.
Ça, je comprends ça, pas. Là. Pour 10 000 piastres, tu perds ton nom, ta réputation, même ta job.
Il va avoir du trouble.
Pas cher à payer. Ben oui, pour pas grand-chose. Il risque
de perdre le monsieur dans les prochains mois. En argent, réputation, problème, payer des avocats plus que ce qu'il a récolté dans le dernier 20 ans. Là.
Ouais, ça, c'est la leçon à tirer de cette affaire-là.
Oui.
Il y a aussi Tech Frontier là, qui se retire du... c'est un gros projet de sable bitumineux.
Le plus gros nouveau projet de sable bitumineux. On s'en était parlé. 100 kilomètres encore au nord de Fort McMurray, là, où sont actuellement la capitale des sables bitumineux. Et on s'en était parlé à quel point pour M. Trudeau, c'était une décision impossible à diviser son caucus, à diviser son cabinet, parce que le projet avait toutes les approbations, puis il y avait toutes les raisons, dans le fond, techniques de dire oui, mais au niveau politique, il y avait toutes les raisons de dire non, de te relancer dans un nouveau projet de sable bitumineux. Ben, M. Trudeau est sauvé de celle-là, parce que l'entreprise retire son projet. Probablement parce que le prix du baril de pétrole présentement est... Il est pas assez cher. Là. En tout cas, au prix actuel du baril, à 55-60$ le baril, même un peu moins, tu peux pas rentabiliser un projet comme ça. C'est un projet qui avait été plus conçu avec du pétrole plus proche de 90, mettons. Là,
Mais un projet de 20 milliards.
20 milliards d'investissement. Ouais, 20 milliards d'investissement. En Alberta, ils sont furieux. Là. Ils en veulent à l'humanité, ils en veulent à tout le monde, ils en veulent au gouvernement Trudeau, mais dans le sens que... Ils disent que c'est pas les vraies raisons, là, t'sais, que le projet est abandonné parce qu'il n'y a plus moyen de réaliser un projet au Canada, parce que le gouvernement était pas vraiment pour, puis que l'entreprise a été obligée de retirer son projet.
Jason Kenney met de l'huile sur le feu, hein. Je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux, mais m'a dit il blâme Trudeau.
Ah oui, mais toute l'Alberta, j'ai vu le passer différentes affaires, puis des instituts économiques d'Alberta. Tout le monde là-bas est furieux. Donc, ça risque, tu sais, dans l'effort de M. Trudeau là pour ressouder le Canada là, puis calmer la colère de l'Ouest, disons que ça va.
Tu vas pas en vacances en voiture en Alberta, hein, avec une plaque du Québec?
Ben oui.
Bon, non. Moi, j'ai parlé à Danny Machocha, le nouveau directeur général des Alouettes, là, puis il me racontait son temps à Edmonton, puis il m'a dit « Tu te fais vite identifier quand t'as une plaque du Québec. »
Ah oui.
Puis pas drôle, là, tu sais, se faire harceler puis insulter. Je me dis, là, avec ces projets-là, puis l'Alberta, puis la péréquation, pas sûr que une plaque du Québec va être très populaire en Alberta. J'espère que je me trompe.
Mais dans ce cas-ci, je veux dire, là, c'est pas partout de la faute du Québec. Là.
Ah oui? Ah oui, c'est de la faute du Québec. En fait, c'est de ta faute, Mario.
Ah oui?
Ça s'arrête là. J'ai Élise Jeté avec moi là, en 5 minutes. On va faire la mise à jour là, du coronavirus. Mais écoutez, faut que je vous raconte une affaire. Marie-Pierre Caillé. Élise, bonjour.
Bonjour.
Marie-Pierre Caillé, hier... appelé Air Canada pour avoir un commentaire sur cette passagère atteinte du coronavirus qui a fait escale à Montréal le 14 février. On l'apprend maintenant. Puis savez-vous quoi? Il nous réfère au Centre de contrôle des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique.
Oui, mais c'est parce que c'est là que la femme vit, là. Donc, elle arrivait de l'Iran, elle a transité à Montréal et elle a eu son diagnostic temporaire le 20 février.
Non, mais je comprends, mais là, on demande à Air Canada... Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Puis il nous réfère, Air Canada est complètement irresponsable là-dedans, Mario.
Ouais, mais je veux dire, le coronavirus, là, globalement, dans le monde, là, il arrive exactement ce que les experts nous disaient il y a deux, trois semaines. Faudrait pas que ça arrive, là. Parce que la Chine a quand même pas si mal, en tout cas, semble avoir pas si mal pris le contrôle sur la situation.
Ouais.
Mais c'est de voir, là, c'est tout ce que tu veux éviter, c'est des nouveaux foyers. Et là, le bal est parti, là. Corée du Sud, Iran, Italie. En Italie, ils ont annulé deux jours du carnaval de Venise. Le nombre de cas encore un matin est en haut de 200. Mais tu sais, la notion de pandémie, là, quand tu dis qu'il y a plusieurs foyers qui partent à gauche et à droite, on est là-dedans. Puis on craignait, c'est drôle, parce que les experts craignaient des explosions de cas dans des pays moins avancés au niveau médical, plus pauvres, etc. On disait que c'est des pays qui sont très à risque. Mais là, si tu prends les trois pays où il y a du problème, là, l'Iran, la Corée du Sud, l'Italie, c'est des pays plutôt avancés là, au niveau scientifique, au niveau médical, etc.
Attends, l'Iran puis la Chine, là, on peut pas dire que c'est les grandes démocraties transparentes. Là.
Je parle pas de démocratie transparente, je parle de l'Iran, là, c'est un pays avancé. Là, dire, à Téhéran, les hôpitaux, là, c'est le premier niveau, puis tout ça. Mais, comme la Corée du Sud, comme l'Italie, on n'est pas dans des pays très, très pauvres ou très...
Mm-hmm.
Fait que, mais qui semblent pas quand même, là, je dis pas qu'ils prennent pas les mesures, mais qui sont faites rapidement déjouer, là, tu sais, qui ont été capables d'empêcher l'éclosion.
J'en viens pas d'Air Canada qui nous réfère au Centre de contrôle de maladies infectieuses de la Colombie-Britannique au lieu de venir en entrevue pis expliquer ce qui s'est passé.
Mais t'as souvent du monde d'Air Canada en entrevue?
Jamais. D'abord, ils parlent pas français. Air Canada, on le sait, là. C'est, il n'y a pas un maudit qui parle français là-dedans. Fait que alors, merci
la direction, le CHSL n'est pas à Montréal, tous des francophones, non?
Fais-moi pas rire. Il me reste des bouts de bronchite, arrête. On salue Pascal Derry qui s'occupe des communications d'Air Canada. C'est tout un contrat dont elle a hérité. On lui souhaite bonne chance. Bon, on t'écoute cet après-midi, je suis plus capable, hein, Mario.
Salut.
Merci.
Salut.